Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce matin, notre invité politique est Éline Jacquemet. Elle est animatrice fédérale des jeunes socialistes des Côtes d'Armor. Elle est venue en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie et c'est une première radio. Tout va bien aller, je vous rassure. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
Alors on va parler de politique comme on le fait chaque matin au micro de la matinale et j'avais envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a eu il y a quelques jours le congrès du Parti Socialiste avec beaucoup de discours, avec plusieurs courants qui s'affirment là encore au Parti Socialiste et une stratégie, celle d'Olivier Faure, de rester, j'allais dire, dans la proximité de LFI avec un accord possible pour les prochaines élections, les prochaines échéances. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Alors, j'ai envie de vous dire déjà que cet accord, il est au conditionnel. C'est-à-dire que forcément, une alliance, ça va se faire avec les deux parties. Il ne faut pas oublier que même si LFI tient une certaine hégémonie, on va dire en ce moment, on ne va pas être sur des accords à leur seule condition, en l'occurrence. Et ce serait dans des situations très précises. En l'occurrence, il ne faut pas oublier qu'en face, on a quand même des menaces qui sont particulièrement importantes. Ça va du RN, mais ça va aussi des LR avec désormais Bruno Retailleau qui en a pris la tête. Bruno Retailleau qui est quand même très à droite, même si ça reste LR, on s'entend. Donc, bien entendu, dans ce contexte-là, il est important que la gauche sache se mettre en position de responsabilité, on va dire. Ce que fait en l'occurrence Olivier Faure en gardant cette main ouverte, on va dire, à LFI. Il est important de savoir que même si on garde la porte ouverte, on estime que ce n'est pas forcément à nous, en l'occurrence, de la fermer. Le NFP, ça reste un ensemble de plusieurs partis. Il va y avoir le PS, les Verts et le PC. Donc si LFI se met à tirer sur tout le monde, ils vont se retrouver tout seuls, on va dire. Donc le fait de se mettre avec LFI, en l'occurrence, en local, ça va être pour les municipales. Hein. Bien entendu, on ne peut pas, dans certaines villes, faire sans et les filles, même si certains sont déjà dans les conseils municipaux, à ce moment-là, il n'est pas question de se retirer de cette alliance. Il faut réussir vraiment à dissocier le fait qu'au niveau du national, on va avoir de potentielles législatives anticipées des alliances, même si, bien sûr, ce sera voté à ce moment-là, sans aucun doute, en conseil national. Étant donné que le TOA a réussi à avoir la majorité des membres du conseil national, on peut espérer, bien entendu, que cette alliance se passe, mais ce sera forcément selon les conditions à la fois de nous, aussi de LFI et des autres partis. Tout le but d'une alliance, justement.
Alors, on entend beaucoup, justement, de questions, de questionnements, particulièrement à droite, voire au-delà, à l'extrême droite, concernant LFI et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il s'agit bien de la personne de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu beaucoup de dissensions, vous le disiez, hein, au sein du PS, beaucoup d'interrogations aussi. On a entendu l'intervention, alors j'allais presque dire musclée, de Jérôme Gage. Il est revenu sur ses propos, hein, il y a eu une forme d'excuse face à Mélenchon, mais il y a eu aussi d'autres faits. Jérôme Gage, par exemple, a été bousculé. On l'a vu avec cette tension qu'il y a entre certains militants LFI et le PS. Est-ce que les choses s'effacent ? Est-ce qu'il faut discuter ? Est-ce qu'il faut finalement poser tout sur la table, si j'ose dire, pour essayer de se comprendre et pour essayer d'avoir une union de la gauche ?
Alors oui, effectivement, vous faites référence à Jérôme Gage, notamment pour le 1er mai, avec des militants à Paris qui ont été agressés par des militants d'extrême-gauche aussi, et aussi des militants d'LFI. Il faut savoir que la position, on va dire, du TOC, de Jérôme Gage, de Nicolas Mayer-Signol, ça va aussi être beaucoup de parler de LFI en permanence. Le Congrès, ça a été beaucoup, limite, un référendum sur pour ou contre LFI. C'est vraiment les deux positions qui sont très tranchées. Donc ça va être aussi pour masquer, on va dire, certaines dissidences en interne, ou alors qui peuvent être plutôt sur le fond, parce que concrètement, actuellement, pour le Congrès, en l'occurrence, c'était les militants choisissaient entre une ligne pour ou contre LFI, et pas nécessairement une ligne de réflexion pour tel type de socialisme, par exemple une ligne pro-éco-socialisme, d'autres choses dans le genre. Et c'est un petit peu ce que je déplore aussi dans ce Congrès, justement, c'est le fait qu'on va ne parler principalement que de ça, alors que le Congrès, c'est avant tout un événement où on va parler de fond. Donc ça, c'est forcément, ça va être un petit peu regrettable. Et pour ce qui va être de mettre justement les choses au clair à ce niveau-là avec les militants de LFI, j'ai envie de vous dire, on peut discuter avec tout le monde. Il faut voir après comment ça va se faire, dans le sens où on ne va pas discuter forcément avec des gens si c'est pour ensuite se faire traiter de social traite à longueur de journée.
On l'a entendu donc beaucoup.
Ça,
hein.
C'est ça, tout à fait. Donc, il faut savoir que bah, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Les alliances, ça va dans les deux sens. Le respect aussi. On discute, mais aussi à l'inverse, on attend le respect. On attend les... le respect de l'accord. Je pense notamment au municipal, avec le, la volonté éventuelle des LFI de placer un candidat en face de chaque mairie PS. Mais les alliances dans les mairies PS, ça va être des alliances qui peuvent être PS-PC, PS-Les Verts, voire l'équivalent du Nouveau Front Populaire sans LFI. Et à ce moment-là, on peut se demander qui c'est qui fait réellement le traître à l'Union en présentant une liste contre une liste de candidats d'Union de la Gauche, en l'occurrence.
Avec le danger d'une fracturation au sein même du PS, on l'a vu là aussi. Alors le PS a toujours été habitué à avoir beaucoup de courants, beaucoup de réflexions. Ça, c'est historique. Mais là, aujourd'hui, on voit que ça se tend quand même, y compris entre membres du PS. Est-ce que c'est dangereux si demain le PS devait, mais je devine un petit peu votre réponse, mais devait imploser, on aurait une forme de désunion de la gauche, ce qui pourrait laisser la porte ouverte, par exemple, à l'extrême droite?
Alors, j'ai envie de vous dire que bah, le Congrès, forcément, ça va être une lutte entre des idées, mais en l'occurrence, il a été gagné, le Congrès. Il ne faut pas oublier que la ligne, elle a malgré tout été tranchée, et que même s'il n'y a pas réussi à avoir d'accord au niveau national de synthèse de travail idéologique, en l'occurrence, il faut quand même réaliser une synthèse de travail de terrain. Donc, continuer à faire fonctionner les fédérations en local, et même au niveau national, certes, on a deux courants au sein du PS qui vont vraiment être très importants, et qui sont opposés sur certains sujets, mais qui, je n'en doute pas, sont capables de travailler ensemble, parce que même si on est sur deux courants différents, on reste dans un même parti avec un même type de valeurs clés, et qui du coup permettront un travail en local et au niveau national. Donc personnellement, la théorie de l'implosion en interne, je n'y crois pas spécialement. Après, peut-être, hein, si on doit refaire une alliance par exemple avec LFI, il y a moyen qu'à ce moment-là on en rediscute et que ce soit un peu plus tendu, mais dans les faits, l'alliance, enfin le point uniquement de LFI ne va pas, à mon sens, suffire à dissoudre complètement le PS. Et quand bien même il y aurait une dissolution, et ben on, enfin une, pardon, excusez-moi, une...
On en parlera tout à l'heure de la dissolution.
Non, bien sûr. Qu'il y aurait une séparation entre guillemets entre deux PS, et ben on aurait chacun des deux qui poursuivrait sa propre ligne. On en aurait sûrement, c'est cool. Bien sûr, moi je ne souhaite absolument pas ça, mais on aurait une partie qui continuerait de s'allier au NFP et l'autre qui irait plutôt voir du côté des sociaux-démocrates, Glucksmann, éventuellement d'autres partis dans d'autres petits partis dans ce genre-là. Et à ce moment-là, on pourra en rediscuter, on verra quels seront les rapports de force à ce niveau-là aussi. Et est-ce que c'est dans leur intérêt, en l'occurrence, de réaliser ça? Parce que moi, personnellement, je ne pense pas.
Avec, on a l'impression quand même d'une forme de miroir déformant avec ce qui s'est passé chez LR. On a vu la scission chez LR avec Éric Ciotti qui s'est rapproché du Rassemblement National pour quasiment s'y fondre d'ailleurs. On a notre sentiment aujourd'hui que les partis politiques traditionnels, à savoir la droite républicaine et le Parti Socialiste, se sont effondrés avec une progression effectivement de LFI d'un côté sur la gauche et sur la droite du Rassemblement National. Et est-ce que c'est dangereux finalement le fait qu'il y ait eu un affaissement de ces partis politiques historiques?
À mon sens, les partis comme l'UPS ou les LR, forcément ce sont les grands partis traditionnels, mais qui, dans la tête des gens, n'imposent pas forcément cette idée de rupture avec le gouvernement actuel, ce qui est assez recherché. En même temps, après autant d'années de macronistes, on peut comprendre aux gens l'envie d'avoir un souffle nouveau. Et je déplore, entre guillemets, le fait qu'ils le retrouvent soit chez LFI, soit au RN. Et je pense qu'il faut aussi regarder, toujours au niveau local, le PS et les LR sont quand même des partis qui sont très présents localement. Il faut aussi que les gens réalisent, entre guillemets, qu'on a un impact au niveau du local qui est bien plus important. Donc même si au niveau national, on se fait un peu plus effacer derrière ceux qui gueulent fort, j'ai envie de dire, qui parlent fort, qui arrivent à capter cette attention que malheureusement nous, on peut un peu perdre, avec des dissensions en interne notamment, et bien, je ne pense pas non plus qu'on soit sur un fin de parcours, si je puis dire.
Il y a donc de l'espoir que les partis politiques traditionnels puissent retrouver peut-être justement la faveur d'un débat qui se cristallise, un débat qui devient, alors un débat quand il a lieu, qui devient de plus en plus difficile.
J'ai envie de vous dire que nous restons quand même une gauche qui reste raisonnable, qui reste, j'ai envie de presque dire, de gouvernement, qui est une gauche qui est capable de pouvoir travailler en soi avec, à sa gauche et aussi à son centre, en l'occurrence. Enfin, on est capable de pouvoir émettre certaines idées qui sont des idées qui vont parler aux gens, qui vont pouvoir avoir un impact sur leur quotidien. Là où, par exemple, LFI va pouvoir avoir beaucoup plus tendance à parler à ses propres militants, on va dire, ou alors à sa frange encore plus à gauche, qui ne va pas forcément aller chercher le peuple comme nous, on peut venir le chercher avec des partis plus traditionnels. On reste toujours, je pense, selon les gens, un parti fiable, on va dire, sur lequel on peut compter, qui sera là derrière eux pour toujours revenir et rappeler comment fonctionne le débat démocratique et comment fonctionnent les institutions.
Voilà, être garant des institutions, être garant aussi de ce qu'attendent les Français, parce que on le voit, il y a une demande sociale, il y a une demande politique aussi, de changement politique. Mais il y a ces Français qui se tournent vers le Rassemblement National. Ils sont un peu plus de 11 millions, donc ça dit quand même quelque chose. Il n'y a pas forcément qu'un vote d'adhésion.
Non, bien sûr, totalement. Il faut savoir que le Rassemblement National, outre son côté idéologique, il va aussi rassembler par ses figures, notamment. On peut penser à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella. Ça reste des figures qui vont, toute idée, enfin avec leurs idées, hein, bien sûr, mais qui vont quand même parler aux gens. Quand vous êtes quelqu'un qui va vivre, pas forcément de façon précaire, mais qui va quand même réussir à avoir un petit niveau de vie et qui a envie de pouvoir avoir un meilleur pouvoir d'achat. Je me fais embêter par une mouche, c'est pour ça.
Voilà, alors les auditeurs ne le voient pas, on a une mouche qui est voilà, arrivée dans le studio. Voilà.
Donc qui essaye de pouvoir essayer de regagner du pouvoir d'achat après toutes les tentatives traditionnelles de la gauche, du centre et de la droite. Forcément, ils vont essayer de nouveaux modèles. Des modèles comme le RN qui vont proposer des choses qui, sans forcément se tenir de manière républicaine ou comme ça, vont paraître pour ces gens-là innovant, en l'occurrence.
On reproche au PS, par exemple, d'avoir perdu l'électorat populaire, de s'être tourné plus vers un électorat urbain, jeune. Alors là aussi, il n'y a pas de jugement de valeur hein, de ma part, mais est-ce qu'il faut retourner sur le terrain ou reconquérir ce terrain qui, finalement, a été un peu perdu pour la gauche?
Alors là, absolument, totalement même. On va dire, effectivement, le PS perd malheureusement cet électorat de base qu'il avait. Bon, ça c'est propre aussi aux décisions qui ont été faites au niveau national, en l'occurrence, de se tourner plutôt vers les centres urbains. Je pense à des alliances entre Lille, Paris, Marseille, enfin des grandes villes en l'occurrence, en délaissant malheureusement la ruralité.
On le voit un petit peu à Rennes et à Brest finalement.
Absolument, totalement. Enfin, les Côtes d'Armor restent un département avec une grosse partie de ruralité. Et ces gens, il faut aller sur les marchés, il faut aller à leur rassemblement, il faut aller les voir directement, même pendant les campagnes, leur signaler qu'on est là, pour pouvoir récupérer leurs revendications, qui ne sont absolument pas les mêmes que quelqu'un qui va vivre dans le centre de Saint-Brieuc. Il faut en avoir conscience et il faut pouvoir opérer en fonction forcément de ces attentes de ce public qui va être différent de ce qu'on peut avoir l'habitude d'entendre dans le débat au niveau national ou en règle générale.
Quitte à ce que sur le terrain, parfois le débat soit rude et que ce soit pas toujours facile de faire passer des idées. On entend aussi une petite musique qui dit « oui, on a eu le PS, on a eu LR, finalement ça n'a rien changé, essayons autre chose. Allons voir si l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté ».
Mais quand on fait des marchés notamment, parce qu'on est assez présent sur les marchés, je pense notamment à Guingamp, à Saint-Brieuc, eh bien on va pouvoir avoir des personnes qui vont justement venir nous tenir ce genre de discours. Et c'est des gens qu'il faut rassurer, principalement, parce que le RN marche énormément sur la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur de ce que peut représenter tout ce manque de considération. Et donc il faut aller voir ces gens, les rassurer, leur rappeler que le RN, en l'occurrence, ce n'est pas un parti qui va aller dans leur sens. C'est un parti qui reste extrêmement élitiste, qui reste proche des gens riches et de ville, et qui utilise uniquement cet électorat de la ruralité comme base pour pouvoir permettre d'augmenter leur vote, mais qui, en l'occurrence, ne les considère pas spécialement, on va dire.
Alors, il y a aussi cette violence politique, on le voit aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure du débat difficile. On voit des permanences d'élus qui sont attaqués, qui sont cassés parfois. On a vu le local du PS.
Oui, le 3 décembre dernier.
Est-ce que là aussi, on a franchi un palier qui est inquiétant?
Alors, pour ma part, je ne sais pas si on l'a déjà franchi ou s'il était déjà franchi avant, parce que la dernière fois que notre permanence a été attaquée, elle a été taguée, des carreaux ont été cassés en l'occurrence. Je sais que ce n'était pas la première attaque, c'était peut-être la sixième en moins de 2 ans, enfin, c'est assez récent. Et bah, le problème, ça va être le fait que les personnes qui vont en être responsables, on ne va pas pouvoir réussir à facilement les avoir, les cerner, on va dire. Et la violence dans le débat public, c'est forcément quelque chose qui permet de dévier des problématiques réelles. On va dire, on peut ne pas être content, ne pas être d'accord avec certains avis, il n'y a aucun problème, mais s'attaquer à des représentants, comme à des élus ou à des permanences ou ce genre de choses, c'est à ce moment-là dépasser un certain stade de violence sociale dans le débat démocratique qui n'est absolument pas sain. et qui ne doit pas représenter la manière de se battre. On va dire, le fait de s'attaquer, en l'occurrence, à des locaux du PS, on peut très bien recevoir des attaques, que ce soit des partis d'extrême droite qui vont venir casser notre permanence, comme de d'autres partis, sans forcément avoir de nom à citer. Donc à ce moment-là, il faut aussi se dire que le débat, cette violence dans le débat public, il peut se retrouver n'importe où. Il n'est plus l'apanage, on va dire, de l'extrême droite, en l'occurrence. Et c'est quelque chose qui va cristalliser l'intégralité de la société et qui va cristalliser aussi les débats et les idéaux qu'on peut avoir, notamment. Donc c'est, en effet, c'est un très gros problème, notamment pour notre démocratie et pour notre liberté d'expression, si j'ai envie de dire.
Alors, il y a les élections municipales qui se préparent. Là, on va en parler. On va rentrer un peu là aussi dans le vif du sujet, avec aussi des maires, et ça rejoint un petit peu le propos précédent, des maires qui jettent l'éponge parce que c'est compliqué administrativement, mais aussi, et parfois, et de plus en plus souvent, en tout cas, ils le disent, parce qu'ils se font agresser, ils se font molester, malmener, menacer, y compris sur les réseaux sociaux, par leurs administrés. Là aussi, on a franchi un seuil, un cap.
Oui, alors il faut savoir que le maire, c'est la figure d'élu qui est le plus apprécié, on va dire, par ses habitants, mais c'est aussi un statut qui est très mal reconnu. En ce moment, il y a une loi qui va être débattue sur le statut de l'élu local, en l'occurrence, qui va permettre une assez bonne avancée au niveau des droits, que ce soit des droits sociaux, des droits à la retraite, des congés maternité notamment aussi. Et c'est quelque chose que des élus, je pense, attendent énormément aussi, parce qu'ils vont leur apporter une certaine protection. De nos jours, oui, effectivement, être maire, être adjoint, être conseiller municipal, même dans l'opposition, dans la majorité, ça va être un travail qui va se retrouver être très compliqué quand on a en face des personnes qui ne vont pas être dans la mesure, qui ne vont pas forcément prendre en compte le fait que ce n'est pas que ces gens sont élus, qu'ils ne font que leur travail, en l'occurrence, et que si eux ne se sentent pas représentés, qu'ils aillent mener campagne à ce moment-là dans l'autre camp, mais qu'ils ne se mettent pas à utiliser la violence comme méthode soi-disant républicaine pour affirmer leurs idées.
Alors, j'avais envie de parler de la jeune génération. On le fait très souvent au micro de Bretagne 5 matin, et vous êtes représentante de cette jeune génération. Je ne dirai pas votre âge, mais voilà, vous êtes engagée en politique. J'ai envie de vous demander quel a été le déclic. Qu'est-ce qui vous a donné envie un jour de franchir le pas, de dire voilà, moi j'ai envie d'être utile, j'ai envie d'entrer en politique.
Alors pour ma part, moi je me suis engagée, ça va être au niveau des législatives, de la dissolution. Alors j'ai souvenir de rentrer du bureau de vote où j'ai pu permettre de faire le dépouillement en l'occurrence, de revenir, d'allumer la télé, de voir Emmanuel Macron dire « je dissous l'Assemblée nationale » et faire « ah ».
C'était au soir des européennes.
Ah oui, c'était
des
soir, c'était le soir même, exactement. Mmh. Et du coup à ce moment-là de me dire que c'était bon, j'avais là, je voulais m'engager, je voulais pouvoir permettre à la gauche de garder des sièges à l'Assemblée nationale, de lutter vraiment contre cette extrême droite que je voyais notamment beaucoup avancer en ligne. C'était principalement ça aussi dans les cercles sociaux que je pouvais côtoyer aussi. J'étais à même de côtoyer des gens d'extrême droite et ça aussi, ça me faisait peur en un certain sens parce que pour moi, c'est des gens où je vais avoir du mal à considérer leurs propos et je vais trouver ça dangereux. Donc à ce moment-là, oui, je me suis décidée à rejoindre du coup, le Nouveau Front Populaire et par conséquent le Parti Socialiste pour réaliser les campagnes législatives. Bon, au moment du découpage électoral, quand nous n'avons eu qu'une seule circonscription dans les Côtes d'Armor, qui plus est la troisième, donc difficilement gagnable, forcément on s'est un peu senti aussi trahi à ce niveau-là. Ce sont des accords qui se font au niveau national, hein, c'est pas nous. Enfin, voilà. Mais du coup, à ce moment-là, pour ma part, je me suis engagée avant tout pour paraître utile, on va dire, dans ce contexte-là, parce que je me sentais bien que si je restais assise chez moi, dans mon canapé, à regarder les gens faire les campagnes, à aller au marché, à récupérer un tract des gens qui tractaient, j'allais arriver le soir des résultats, voir que le RN allait gagner, et à ce moment-là, savoir que j'aurais été plus utile, en l'occurrence, sur le terrain.
On dit que les jeunes aujourd'hui n'ont pas de conscience politique ou s'éloignent de la politique et pourtant ils sont nombreux et nombreuses, hein. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'engagent en politique mais souvent par le biais d'actions, on peut penser au climat, on peut penser aussi aux droits des femmes, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent justement avant d'aller en politique dans des actions particulières. Mmh. Vous avez eu un chemin peut-être plus traditionnel, voilà, vous aviez envie d'aller directement à la chose politique.
Oui, c'est ça. Enfin, en l'occurrence, c'était mon chemin. Mais effectivement, l'entrée en politique par le féminisme, par l'écologie, par Le syndicalisme étudiant aussi, notamment, sont des entrées en politique qui sont aussi très bonnes parce qu'elles permettent une formation au préalable. Ça permet de développer éventuellement ses idées. Ce qu'on va rechercher aussi dans un parti politique, ça va être la structure autour, ça va être le réseau, ça va être aussi le fait que ça va nous donner une parole qui va être entendue, qui est aussi entendable, hein, bien entendu, dans les organisations associatives, mais qui va là pouvoir permettre de généraliser le discours et qui, bah, en fait, on va dire que les candidats se présentent quand même sous une certaine étiquette. Et donc, à ce moment-là, c'est plus simple de pouvoir aussi réaliser un parcours politique que purement dans l'associatif. C'est quand même deux mondes très différents, l'associatif et le politique, en l'occurrence.
Voilà, puis le politique, vous pouvez décider, finalement.
C'est ça, oui, totalement. On peut être libre de se dire, moi, aujourd'hui, je suis socialiste. Si dans 10 ans, je ne me sens plus autant socialiste, bah, je peux aussi bouger. Enfin, les sensibilités politiques évoluent, que ce soit personnellement, mais que ce soit aussi au sein des partis. Le Parti socialiste actuel n'est pas le même qu'il y a 20 ans, n'est pas le même qu'il y a 50 ans. Voilà.
Voilà, on est loin de la SFIO, voilà, et de François Mitterrand en son temps. Là aussi, sur les jeunes qui s'engagent, alors, on dit souvent que les jeunes ne sont pas entendus, les états-majors décident. Est-ce qu'au Parti socialiste, vous arrivez à faire remonter des idées, parfois même les imposer, même si c'est difficile?
Alors, j'ai envie de vous dire que bah, chez nous, les jeunes socialistes, en l'occurrence, on est le poil à gratter du Parti socialiste. On arrive, on pose les dossiers sur la table, on leur fait dire « Bon, on est des jeunes, on est motivés, on va coller vos affiches, on va sur vos marchés, c'est bien sympa de faire du militantisme, mais maintenant, vous écoutez aussi ce que nous, on va avoir à proposer. » Et j'ai envie de vous dire, le mariage pour tous, par exemple, est un projet de loi qui a été proposé aussi par les jeunes socialistes, qui a été remonté au Parti socialiste et qui après a pu être adopté. Donc oui, bien sûr, il faut savoir que chez les jeunes, actuellement, on a quand même le moyen de pouvoir bouger les choses. Les personnes qui vont être plus âgées que nous ne vont pas forcément avoir nos mêmes réflexions, notre même vision sur le monde, puisqu'on vit quand même à une époque qui n'est pas du tout la même que la vôtre ou que nos aînés. On va vivre dans un monde beaucoup plus connecté, on va être né avec directement des changements sociaux qui vont être beaucoup plus importants, et ça va nous faire voir la vie et le monde politique d'une manière totalement différente. Et je pense que c'est important aussi d'apporter ce regard neuf sur la politique, sur qu'est-ce que veulent les jeunes, en l'occurrence, et quelle est notre vision de la société, en l'occurrence.
Alors, justement, cette vision novatrice, cette vision progressiste, hein, on peut le dire comme ça, de la société, ça permet aussi d'aller un peu plus vite sur des décisions, parce qu'on reproche souvent au monde politique traditionnel de ne pas aller vite. Alors, est-ce qu'il faut à la fois se donner le temps de la réflexion, mais aussi prendre des décisions au bon moment et quand l'occasion se présente?
Oui, bien sûr qu'il faut se laisser donner le temps de la réflexion, il faut aussi donner le temps du débat, parce qu'on peut proposer un projet de loi, mais aussi avoir forcément l'avis du camp adverse. Ça reste des avis qui sont souvent bons à prendre, qui permettent d'étoffer aussi le projet en question. Je pense que la précipitation n'est pas bonne, mais parfois elle va être nécessaire, en l'occurrence.
Il peut y avoir des situations d'urgence.
Il peut y avoir des situations d'urgence dans lesquelles il va être important de pouvoir réagir. Par exemple, actuellement, la jeunesse va être très mobilisée sur la question de Gaza. La jeunesse va vouloir la reconnaissance de l'État de Palestine par le gouvernement, là où celui-ci va plutôt se dire non, il faut le temps de l'échange, il faut le temps, sauf que bah, nous, on est jeunes.
L'idée fait son chemin, remarquez.
Voilà, c'est ça totalement. Mais nous, on va être jeunes, on va avoir vécu une vie plus courte. Pour nous, tout va nous paraître beaucoup plus rapide. Nous vivons dans une société qui va aussi plus vite et il faut pouvoir suivre la cadence et le changement aussi à certains moments.
Alors on voit, vous avez parlé de Gaza, on voit ce conflit entre Israël et l'Iran qui prend des proportions très inquiétantes avec les États-Unis qui peu ou prou entrent en guerre, voilà, même si c'est pas encore très clair au moment où l'on se parle. Mais on voit deux peuples qui souffrent finalement, le peuple palestinien, le peuple israélien. Alors là, on décorrèle des dirigeants. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui porte question, vous inquiète, la jeunesse que vous représentez, la génération que vous représentez, le fait d'avoir encore aujourd'hui des guerres telles qu'on peut les vivre? Alors, ça fait peut-être un peu mièvre ou un petit peu facile de dire la guerre, c'est pas gentil, mais est-ce que aujourd'hui vous vous dites, il faut qu'on passe le cap de ces guerres, il faut qu'on parle de diplomatie, qu'on parle politique, qu'on parle, État finalement?
Alors, j'ai envie de vous dire que dans le monde actuel où on vit, qui va être un monde mondialisé, où on va pouvoir avoir accès tout de suite à l'information, donc par exemple à l'information de guerre et de savoir tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Forcément, nous les jeunes qui sommes extrêmement connectés sur les réseaux sociaux, quand on va nous parler des massacres qui ont lieu à Gaza, ça va tout de suite nous parler, puisqu'on peut les voir. Il suffit d'ouvrir Twitter, de s'y balader un petit peu et d'avoir un feed qui va correspondre plus ou moins à nos idées. si on veut en entendre parler, on en entendra parler. Donc forcément, ça va émouvoir beaucoup les jeunes, tandis que les personnes plus âgées ne seront pas forcément très présentes sur ces réseaux sociaux, auront moins conscience de ce qui se passe en l'occurrence. Donc oui, parler de diplomatie à l'heure actuelle, ça va être forcément très important, parce que les guerres, ça, c'est aussi une guerre diplomatique. Il faut pouvoir avoir des rapports de force entre les différents pays, entre l'Europe en l'occurrence, avec des accords avec Israël. Donc il faut aussi savoir si ces accords ne seraient pas caduques aussi à certains moments, s'il faut aussi pouvoir avoir une position sur la scène internationale qui va être plus forte, plus affirmée, ce qu'on peut demander, hein, notamment, c'est pas... Enfin, voilà. Et on va aussi avoir le fait que bah, forcément, on va avoir des superpuissances comme les États-Unis qui, dès qu'ils vont rentrer dans le jeu de la guerre, vont embarquer tout le monde avec eux. C'est aussi le risque de la mondialisation actuelle. Et donc tout ça va nous mener à des combats, des conflits qui sont d'une complexité géopolitique extrêmement difficile à résoudre, beaucoup plus compliqué géopolitiquement parlant qu'il peut y avoir d'il y a quelques cinquantaines d'années, on va dire.
Les conflits d'aujourd'hui sont effectivement plus complexes au niveau géopolitique.
C'est ça.
Change aussi la géopolitique et puis la politique change aussi la géopolitique. Vous me voyez venir, il y a Donald Trump aux États-Unis avec des lois qui ont été prises contre l'immigration, contre certaines franges de la population. Est-ce que ce sont des choses qui vous inquiètent aujourd'hui quand on voit la montée des populismes, y compris sur notre continent, en Europe ?
Alors oui, bien entendu que ça m'inquiète. Et il faut aussi savoir que cette montée des populismes, elle va avoir plusieurs causes dont on en parlait tout à l'heure. Déjà, la sensation d'abandon par les populations. Mais on va aussi avoir le fait que forcément, certaines populations deviennent toujours plus précaires, tandis que d'autres populations deviennent toujours plus riches. On va avoir cette grosse inégalité qui va aussi se former, qui va donner l'impression aux gens de perdre aussi cette valeur, ce pouvoir d'achat notamment. On peut penser au Rassemblement National qui avait détourné plusieurs millions au Front européen et qui après demande comment c'est possible que l'argent public soit utilisé pour nettoyer la place de la Bastille après une manifestation pro-palestinienne. On peut se dire que c'est quand même plutôt culotté, si je puis dire. Donc oui, forcément, cette montée des populismes, elle va faire peur parce qu'elle est presque, on va dire, incontrôlable. On peut avoir des adversaires... qui vont avoir des propos qui sont absolument intenables, des prises de position ou des actes totalement immoraux, mais qui vont quand même continuer de monter dans les sondages. Donc il faut aussi se prendre du recul sur ses actions, enfin sur soi-même, et se demander qu'est-ce qu'on a pu faire pour que ça en arrive là, à ce moment-là.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement ?
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à l'heure actuelle pour en arriver là, tout à fait.
Alors, on a un débat aussi qui est pollué par le racisme, l'antisémitisme aujourd'hui en France. Alors, on pointe beaucoup du doigt LFI, lui prêtant une forme d'allégeance à un entrisme islamique aujourd'hui. Est-ce que là aussi, on a tous les germes d'une forme de conflagration entre diverses couches de la société française ?
Eh bien, c'est le but... Du racisme, de l'antisémitisme, etc., ça va être le but notamment du Rassemblement National, c'est de monter chaque population contre les autres, de continuer d'instaurer ce climat de haine, de détestation de l'autre, afin de pouvoir en même temps ne pas voir vraiment ce qui se passe derrière, quels sont les maux littéralement de la société, donc en l'occurrence la précarité, le chômage, les accès à l'emploi, aux aides sociales, notamment à l'école, qui sont des problématiques de fond qu'il faut traiter, qui se traitent sur un temps long, de manière compliquée, et qui sont beaucoup plus difficiles à percevoir pour la population, à capter l'intégralité des enjeux, plutôt que des questions de racisme ou d'antisémitisme, où il est beaucoup plus facile de crier à l'antisémitisme à chaque action, plutôt que d'essayer vraiment de comprendre le fond derrière de pourquoi cette action a eu lieu, en l'occurrence.
Un tout dernier mot, il nous reste 45 secondes, ça va être très court, mais on a vu de récents faits divers impliquant des jeunes, ce jeune de 14 ans qui a poignardé, par exemple, une surveillante. Il faut faire quelque chose pour la santé mentale de la jeunesse aujourd'hui ?
Absolument, les fonds dans la santé mentale de la jeunesse, dans les places en hôpitaux psychiatriques par département, ne sont absolument pas suffisants. On va être sur une dizaine de places en pédopsychiatrie par département. 10 jeunes qui vont mal et qui ont besoin d'être hospitalisés, on vous les trouve. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aussi... C'est aussi un problème de santé publique et du coup, il faut que les politiques s'y attellent et s'y attaquent sincèrement et arrêtent de tourner autour du pot pour pouvoir permettre... Je termine. Pour pouvoir permettre de faire avancer tout ça et de se concentrer sur cette frange de la population qui, en l'occurrence, souffre et qu'il faut aider.
Voilà, on va être obligé de s'arrêter là parce que le temps file. Éline Jacquemet, animatrice fédérale des jeunes socialistes des Côtes d'Armor, était avec nous ce matin dans la matinale de Bretagne 5, première radio. Vous voyez, ça s'est très bien passé, malgré la mouche qui nous a attaqués. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.